Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Écoutez, pour être tout à fait honnête, j'ai failli simuler 206 gastro, une paralysie faciale et encore plein d'autres choses pour ne pas faire cette masterclass. C'est pas parce que je vous voue une haine mais indicible ou que j'ai pas du tout envie de vous dispenser des conseils, je préfère les garder et être géniale toute seule de mon côté. C'est tout simplement parce que j'étais assaillie de part en part par le syndrome de l'imposteur. Alors, je me suis dit, t'as deux choix, soit tu le dis que t'es terrorisée, soit tu fais comme si t'avais fait 50 TED Talks, c'est trop tôt pour cette slide Matisse, soit tu fais comme si tu maîtrisais l'exercice, et puis je me suis dit que j'allais vous le dire, parce qu'en fait, en tant que meuf, on l'endosse assez naturellement, ce rôle de l'imposteur, dans une société où les hommes prennent toute la place, tout le temps, partout, en se masturbant pour bien l'avoir prise, comme ces hommes, par exemple. Et nous, derrière, on est là, on dit, moi, j'aimerais bien monter sur scène et oser donner mon avis dans un micro, mais il y a déjà trop d'hommes qui s'y masturbent, comment faire ? Ce qui fait que le sol est un peu collant aujourd'hui. J'avais promis à mon mec que je ferais une blague sur le sperme, donc voilà, ça c'est fait, c'est la seule. Super. Je sais déjà plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éradiquer ce fameux syndrome de l'imposteur, de lui écraser un petit peu les couilles. Et pour ça, je vais vous donner quelques conseils assez simples. Donc voilà, je m'appelle Kalindi Rampfel, c'est bien que je me présente quand même. J'ai 29 ans, je suis journaliste, podcasteuse, autrice et nouvellement scénariste. Et je travaille depuis 5 ans pour un média féminin et féministe qui s'appelle Mademoiselle.com. Est-ce que quelqu'un connaît Mademoiselle.com dans cette salle ? Oui ! Wouh ! Les autres, vous pouvez sortir. Et donc, en fait, il y a 8 mois, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le seul avis qui compte, où je parle cinéma... Oh, magnifique photo. On dirait que j'ai la jaunisse, ou genre une hépatite C. Donc, on a lancé ça il y a 8 mois, ça s'appelle Le seul avis qui compte. Je parle cinéma, série et un petit peu de télévision. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça ? Quand même pas mal de choses, c'est pour ça que j'ai été invitée. Et donc oui, ça s'appelle Le seul avis qui compte parce que, eh bien, mon avis est le seul qui compte d'après ma mère et moi-même, c'est déjà pas mal. Et c'est donc en ma qualité de grande gueule de mon état que j'ai été invitée à venir ici vous donner mes petits conseils. Mais, avant toute chose, vous aurez remarqué que je ne suis pas seule aujourd'hui puisque je suis avec Mathis Grosso, pas tout de suite l'applaudissement. Mathis Grosso, hop, sa slide est ici. Attendez deux secondes, je sais plus ce que je devais dire sur lui. Hop, hop, hop. Ah oui, voilà. Donc, c'est un homme absolument brillant. Un homme absolument brillant en lequel j'ai quasi toute confiance. Alors, pas à 100% parce qu'il se lave pas assez les cheveux pour ça. Mais déjà à 75% à peu près. Et alors Mathis, contrairement à ce qu'indique son physique, n'est pas un soldat russe que j'ai réduit en esclavage, mais simplement un homme de Normandie. Je sais que la confusion peut être rapide. Donc j'ai préféré dissiper tout malentendu, voilà la Normandie. C'est de là que vient ce bon Mathis. Mathis est là pour plusieurs choses aujourd'hui. Déjà, il va faire défiler les slides. Je le fais pas moi-même parce que je sais rien faire sur un ordinateur. Je comprends pas comment j'ai pu survivre 8 ans sur le web. Et parce que j'avais la flemme. Et quiconque me connaît sait que je vis au-dessus de mes moyens. Ça veut dire que je paye des gens pour faire des choses que j'aurais très bien pu faire moi-même. Et donc, c'est Mathis qui va vous passer ses slides, mais pas seulement. Il va aussi, parce que j'ai pas envie qu'on s'ennuie à se dire quand est-ce qu'on rigole, quand est-ce qu'on est gêné, tout ça. Mathis va vous passer des panneaux qui vous indiqueront ce que vous devez faire quand vous devez rire. Il vous montrera le panneau d'Anne Roumanoff. Celui-ci. Quand vous devez applaudir, celui d'un homme qui fait le minimum. Hop. Et quand vous devez huer, celui évidemment d'Éric Zemmour. On espère voir Éric Zemmour le moins possible aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, j'ai un podcast qui s'appelle Le seul avis qui compte. Donc voici la bande-annonce. Ça, c'est ce que j'ai écrit, mais je crois qu'on peut pas mettre la bande-annonce. Si, waouh, super.
Vous trouvez les journalistes cinéma globalement prétentieux et chiants comme la pluie ?
C'est qu'ils le sont tous.
Enfin, sauf moi, bien sûr. Je suis Kalindi Rampfel, journaliste culture chez Mademoiselle, et parce que mon avis est le seul qui compte, d'après ce que m'a dit ma mère, vous pourrez l'écouter tous les vendredis sur toutes les applis de podcast globalement. Je vous parlerai des films que j'aime, des films que je déteste, des films que j'ai pas vus, et puis je vous parlerai aussi séries, parfois même télé, et je vous parlerai toujours, ça je vous en fais la promesse, de La Frange de Juliette Armanet. Le seul avis qui compte, c'est le podcast Ciné de Mademoiselle que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur toutes les applis de podcast. Et c'est le podcast qui va vous prouver qu'on peut faire du bon journalisme sans être un mec de 50 ans avec une calvitie.
Merci, merci. C'est donc un podcast produit par Mademoiselle sous forme de billets d'humeur hebdomadaire. Ça sort tous les vendredis à une heure fluctuante. Et en fait, je parle de cinéma, de séries et aussi de télé, mais au regard de mon regard, pour donner un petit peu de personnalité, pour incarner les 8 minutes que dure en général chaque épisode. Alors, je vais aussi bien parler de gros blockbusters, genre, qu'est-ce qu'on a fait, James Bond, j'ai oublié l'autre principal, et The Batman. De films un peu plus auteurs, genre Les Jeunes Amants ou Barbac. Et évidemment, de films problématiques, parce que le cinéma français en regorge, comme par exemple comme Les Segpa ou plus récemment Ténor. J'essaie de varier. Donc j'essaie un petit peu de varier les plaisirs tout en gardant ma ligne édito qui est de donner un maximum d'opinions en un minimum de temps, un minimum de minutes. Alors ce podcast, juste pour info, on ne le fait pas sponsoriser, on s'est posé la question de le faire. Parce que vous savez, les distributeurs de films parfois donnent de l'argent aux médias pour qu'on dise du bien de ces films-là. Donc on s'est demandé si on allait le faire, on a décidé de ne pas le faire, tout simplement parce que comme ça, on garde notre liberté éditoriale et je suis capable, j'ai le droit d'encenser ou de critiquer un film sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est super parce que du coup, Mademoiselle me fait vachement confiance. J'ai préparé tout un laïus sur Mademoiselle alors qu'il n'y a personne de chez Mademoiselle. Non, mais il n'y a pas mes patrons, donc ça ne servait à rien du tout que je dise tout ça. Mais merci quand même à Mademoiselle de me laisser choisir mes sujets, laisser choisir mes films. Je dis ce que je veux et ça, c'est super, c'est hyper précieux. J'ai beaucoup de chance aussi parce que je suis accompagnée de Mathis qui réalise le podcast et qui me fait plaisir avec ses looks quotidiens. Alors aussi, je donne mon avis dans un autre podcast qui est Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer d'ailleurs, on va enregistrer la 200e ce soir à 20h. On est déjà très nombreux, mais n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas encore pris votre place. Je dis ça, mais je sais pas, j'invite des gens, bon bref. Et dedans, donc, c'est censé être un podcast de recommandations culturelles. C'est surtout quatre cons autour d'une table qui disent des trucs avec la moitié des infos. Et donc, j'aime à crémer les oreilles de nos auditeurs de mes avis souvent tranchés, car j'ai du mal à faire dans la demi-mesure. Et aussi, dernier endroit où je donne mon avis, c'est évidemment dans les articles de Mademoiselle. Ce que je fais, c'est que je commence toujours au début d'un article par raconter une petite histoire qui m'est propre, une anecdote, quelque chose que j'ai vécu pour essayer de aller toucher l'empathie de mon lectorat. Parce que j'ai appris il y a longtemps d'un homme fabuleux qui s'appelle Fabrice Florent que c'est par l'intime, je pensais qu'il serait là, c'est pour ça aussi, c'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Alors c'est pas de Fabrice Florent, mais Fabrice Florent le dit souvent. C'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Donc c'est pour ça que je commence toujours par donner un petit peu mon point de vue, mon opinion, etc. Et je pense que c'est aussi le meilleur moyen d'embarquer les gens dans nos histoires. Et moi, raconter des histoires, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, que ce soit par écrit, à l'oral, dans des films, pourquoi pas rêver un petit peu, etc. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre à ce sujet ? Ça, je vous l'ai dit, ça aussi... Ah oui, mais c'est peut-être aussi parce que raconter des histoires, c'est ce que vous voulez faire, vous, si vous êtes là. Peut-être que vous vous dites, j'ai envie de faire un petit podcast avec mes petites mains. Je veux raconter des histoires, donc, bienvenue. Je vais donc aujourd'hui essayer de vous donner des conseils assez simples, vous allez voir, mais qui sont utiles un petit peu tout le temps et en toutes circonstances. C'est des leviers assez importants. On va voir comment le plus important, c'est de mettre des barrières mentales entre les attentes qu'ont les gens de vous et ce que vous désirez faire intrinsèquement. Comment ne pas écouter les haters et donner votre avis en toutes circonstances sans pour autant devenir un gros troll d'internet. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Petite précision, j'ai décidé de donner une petite dimension un peu féministe à cette masterclass, tout simplement parce que prendre la parole, donner son avis quand on est une femme, c'est moins facile parce qu'on ne nous la donne pas, tout simplement. Et en fait, c'est un peu ironique, parce qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, je ne savais pas vraiment que j'étais féministe. Je savais que je n'avais pas envie de me faire violer en rentrant du métro. Je savais des trucs un peu basiques, mais c'était à peu près tout. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ce mot valise. Je ne savais pas ce qu'il englobait. Je ne savais pas où ça commençait, le féminisme, où ça se terminait. Est-ce qu'on pouvait l'être trop? Est-ce qu'on ne l'était pas assez? Enfin, je ne comprenais pas grand-chose. Et en plus... Quand je suis arrivée, j'étais assaillie par des femmes qui m'ont parlé de règles, de fond de culotte, de poils. J'étais là, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'entendre ça. Donc j'étais un peu en rejet de la notion. Et puis, il s'avère que j'ai beaucoup de défauts. Par exemple, je suis assez soupe au lait, donc je suis relativement agacée par mon semblable. Mais je suis assez curieuse et j'essaye surtout d'être chaque jour un être humain un peu moins dégueulasse que la veille. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai lu, j'ai regardé des masterclass. C'est faux, j'ai genre jamais regardé de masterclass de ma vie. Mais j'ai lu, j'ai écouté mes collègues, j'ai essayé d'apprendre des choses. Et en fait, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que j'ai pris la fameuse pilule rouge dans Matrix. J'ai pris la pilule qui m'a fait voir la vérité. Et en fait, quand on commence à regarder le monde différemment, on ne peut plus revenir en arrière. There is no going back, comme dirait Katy Perry. Je vais boire un peu d'eau.
C'est drôle quand t'es bois, ceci dit.
Alors, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir une petite coloration à cette masterclass. C'est pas grave, les hommes, vous pouvez rester. Et comme j'aime démontrer par l'exemple, je vais un peu vous parler de moi et de, c'est pour ça que j'ai été invitée, et de comment mon environnement social, scolaire et c'est tout, m'avait prédestinée à être une meuf un peu mal dans ma peau et surtout une meuf pudique et très discrète. Donc... et donc oui, surtout ce que je voulais vous dire, c'est que donc il y a cet environnement-là, mais qu'après c'est que à force d'un travail personnel intense sur lequel je suis encore en train de plancher, que j'ai réussi à oser donner mon avis ici par exemple et à en faire mon métier. Alors pour vous expliquer un petit peu, je suis fille unique, je suis née d'un père mauricien, mais de C'est trop tôt. Je suis née d'un père mauricien d'origine indienne, du nord de l'Inde, donc du Rajasthan, et d'une mère française d'origine roumaine et algérienne. Et en fait, j'ai grandi dans une petite ville du 92 qui s'appelle Levallois-Perret. Et on est assez célèbre pour notre mère, et bien qui a une petite phobie administrative, qui a réussi à payer ses impôts du premier coup lui jette la première pierre. Et donc, j'ai grandi à Levallois en étant une enfant, ce qu'on pourrait qualifier d'énorme vicose de l'existence. J'étais très timide, j'étais très moustachue. Et je ne dis pas ça pour que vous me disiez « Non, t'étais trop mignonne », j'étais genre vraiment hyper moustachue. Et j'avais genre des cheveux qui poussaient par touffes, et on appelait Pompidou, donc ce n'était pas un départ hyper simple. Et dans mon école, on était genre 5 à ne pas être blanc. Et en fait, j'avais une tronche assez difficile à situer sur un planisphère, avec des yeux étirés, une peau typée et un nez de déjà 2 km de long, les élèves spéculaient un petit peu sur mes origines. C'est comme ça qu'un petit garçon qu'on appellera Steven, d'abord pour préserver son anonymat, ensuite pour rendre hommage au pire des années 90, Steven m'a appelé la chinoise pendant 3 ans. Et moi, j'étais un peu perplexe parce que j'étais là. Alors, je comprends pas parce que déjà, je suis pas chinoise. Ensuite, j'ai pas l'impression que ce soit une insulte, alors qu'il m'avait dit ça comme si c'était censé me blesser. Donc, petite précision, Steven est aujourd'hui CRS. La roue tourne à tourner. Et il y a des signes quand même dans la vie qui montrent un peu qui va être un gros con. Donc, j'ai été troublée. Merci, Louise. Donc, j'étais troublée parce qu'à l'école, en fait, on plaquait des origines et donc des histoires sur moi et qui ne correspondaient pas avec ce qu'on me racontait à la maison. Donc, j'étais paumée, je ne savais pas genre du tout qui j'étais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent qui ils sont quand ils ont 6 ans, mais moi, j'étais genre vraiment pas du tout, je ne savais pas. Et je me regardais un peu comme si j'étais à l'extérieur de moi et je me disais, qui est cette enfant taiseuse, un peu malaisante, etc. Et donc, à la maison, c'était très différent. Mais j'avais aussi un souci qui est que j'ai été élevée par un père assez misogyne. La faute à une éducation qu'il a reçue chez lui hyper patriarcale et la faute à un système mauricien où les femmes ont assez peu voix au chapitre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, c'est ça. Pour mon père, élever une fille, parce qu'il a jamais été très à l'aise avec le fait d'avoir enfanté une personne avec un vagin. Du coup, et pour lui, élever une fille, c'était élever une fille pudique et très discrète. Sauf que moi, quand je rentrais de l'école, où bah j'avais galéré à me faire des amis, où c'était pas facile pour moi, et où j'avais globalement du mal à m'intégrer. À la maison, je parlais, je palabrais à fond, pour lâcher tout ce que j'avais pas pu dire à l'école. Et donc mon père me disait tout le temps, tais-toi, tu parles comme ma grand-mère. Et là, encore une fois, j'étais perplexe, j'étais là, mais cette femme est morte et enterrée depuis bien trop longtemps, je sais du coup pas du tout ce que ça veut dire, et en plus j'ai encore l'impression qu'on me fait un reproche, qu'on me critique. Donc à l'école, je suis critiquée pour mon physique, et à la maison, je suis critiquée pour le simple fait d'avoir une voix. Et en fait, je savais déjà à ce moment-là que c'était pas parce que j'étais une enfant, enfin ça jouait quand même, mais c'est surtout parce que j'étais une fille. Et un jour, je me souviens, mes parents ont invité des gens à dîner, dont Fred. Fred, le glorieux Fred, donc un pote de mon père hyper sexy, chirurgien, mais habillé comme un clodo, donc encore plus sexy. Et il était tout le temps avec des zouzes, tous les jours il y avait des nouvelles zouzes et tout. Et du coup j'étais là, ouais, trop être une zouze comme ça, avec lui à mon bras quand je serai plus grande. Bref, du coup... J'étais hyper émoustillée et j'ai pas arrêté de parler à Fred. Et... Arrêtez de dire du mal de moi au premier rang. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et oui, donc ce soir-là, j'ai parlé. Fred a dit à mon père, écoute, ta fille, elle s'est éveillée pour son âge, c'est cool. Et du coup, mon père a été fier et il m'a pas demandé de me taire pour la première fois de ma vie. Du coup, j'étais encore plus confuse. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? À l'école, faut-il que je sois moins typée, que je me cache le nez d'une main ? À la maison, faut-il que je sois discrète ? Ou au contraire, faut-il que je distrais les adultes ? Donc, j'étais Maxi Pomax. C'était le flou total. Je savais pas ce qu'il fallait que je sois, précisément parce que toutes les personnes qui m'entouraient attendaient quelque chose de différent de moi. Je me suis alors construite comme un nuage, comme une espèce de vapeur qui voudrait bien épouser la forme qu'on veut lui donner. J'ai passé toute mon enfance à être pétrie de complexes, confite soit dans la différence, soit dans l'indifférence. Alors jusqu'au jour où ma mère m'a inscrite à un cours de théâtre auquel a participé Élise Piécoq. Je sais qu'elle ne veut pas que je la nomme, mais c'est trop tard. Jusqu'au jour où ma mère m'a inscrite à un cours de théâtre. Et en fait, j'avais genre trop pas envie d'y aller. J'étais petite, j'avais pas du tout envie d'y aller. J'étais terrifiée. En plus, j'étais une enfant très toquée et très angoissée. Donc, les premières fois au cours, c'était l'angoisse. J'étais super nulle. Et un jour, la prof nous a dit, bah, montez sur scène et révélez un secret que vous avez jamais dit à personne. Quelque chose qui en dit un peu long sur vous. Alors, j'étais là, qu'est-ce que je vais raconter ? J'étais terrorisée comme d'hab. Finalement, je suis montée sur scène et j'ai raconté que quand je rentrais de l'école... tous les jours, j'allais dans ma chambre et je touchais chacune de mes peluches 10 fois sur la tête en récitant des incantations pour protéger mes amis imaginaires et me protéger moi-même de quoi, de qui, on sait pas trop. Et donc, en fait, j'ai avoué ce jour-là devant toute ma classe que j'étais toquée, très toquée. Et en fait, personne s'est moqué de moi, personne m'a méprisée. J'ai eu l'impression d'être dans un safe place. Ce jour-là, ça a changé pas mal de choses pour moi. Déjà, ça m'a fait aimer le théâtre. J'ai continué le théâtre et je me suis rendu compte que non seulement j'aimais ça, mais qu'en plus, j'étais pas trop mauvaise. Et surtout, ça m'a fait me rendre compte que j'adorais finalement parler de moi, donner mon avis et que les autres m'écoutent en se taisant. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Ensuite, donc c'est un exercice qui, moi, m'a été salvateur. Ça m'a appris la balance entre la nécessité de l'unicité et la nécessité d'envisager l'altérité. Du coup, en grandissant, je me suis dit que naturellement, ce que je voulais être, c'était comédienne, pour passer mon temps à osciller entre ma vérité et celle des autres. Encore une fois, je suis tombée sur le fameux syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, putain, tout le monde sera meilleur que toi, tu vas être nulle, donc laisse tomber cette ambition-là. Et en fait, dans mes petits cours de théâtre à Levallois, j'étais assez bonne. Je me suis dit, vas-y, autant être un gros poisson dans une petite mare qu'un petit poisson dans l'océan. Est-ce que c'est bien ça ou je me suis gourée ?
Jusque-là, c'est bon.
C'est bon, ok, super. Et voilà, parce que j'avais peur en fait que mon ego ne se remette pas de potentielles déceptions, ça c'est une certitude, mais aussi et surtout parce qu'en tant que meuf, on nous apprend à avoir peur de prendre la place qui pourtant nous est due. Donc depuis qu'on est petite, c'est ce que j'ai démontré avec mon propre exemple, mais aussi évidemment plus tard, quelle heure est-il ? Mais aussi plus tard quand on veut rentrer dans le monde professionnel. Vous savez très bien qu'à compétences égales, nous on va mille fois plus galérer à se faire respecter de nos homologues masculins, qu'en général tout est un enfer. Et en fait, je vais illustrer ça avec un exemple cinéma. Il y a quelques mois, j'ai participé à un festival qui s'appelle le Festival du film fantastique de Gérardmer, qui est mon festival préféré, j'y vais tous les ans. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré un réalisateur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Paco Plaza. Alors, c'est une blague de Mathis. Hein. Donc, pas Stéphane Plaza, mais Paco Plaza. Paco Plaza, que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé 2 des 3 volets de REC. Et en fait, j'ai fait une interview fleuve de 45 minutes avec lui, c'était édifiant. Et en fait, il m'a dit que il y a quelques années, il s'était marié à une réalisatrice, actrice et aujourd'hui productrice de films espagnols et une figure de proue du féminisme en Espagne surtout. Et en fait, il lui a produit son premier film. Et il m'a raconté, quand on a demandé de l'argent pour faire ce film, tout le monde ne s'est adressé qu'à moi. Et quand on a été invité sur les plateaux de télé, les gens ne posaient des questions qu'à moi. Je leur disais, mais bon sang, posez-lui des questions à elle, c'est elle la réalisatrice. Moi, je ne faisais que produire, mais c'était son film à elle, sa voix à elle. Certaines personnes lui ont même dit « Avez-vous écrit le scénario vous-même ? » Quel mépris ! Waouh, ça se voit que j'ai fait du théâtre. On a beaucoup parlé de ça avec Laetitia, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, personne n'a jamais remis en doute le fait que je sois capable de réaliser un film. Et pourtant, j'étais jeune, je n'avais que 27 ans. Bref, tout le temps, elle a été soumise à une examination terrible. Les gens ne lui faisaient pas confiance, simplement parce qu'elle est une femme. Et personnellement, je veux tout faire pour que ça change. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne produis plus que des femmes. Donc, être une femme, c'est voir en permanence nos compétences questionnées. C'est voir en permanence nos opinions être questionnées.
Excuse-moi, je te coupe la parole, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Ton opinion, en fait, elle est un peu
limitée. Merci, Mathis. C'est pourquoi prendre de la place, donner son opinion quand on est une femme, que ce soit dans la sphère privée ou dans l'espace public, c'est un geste que, personnellement, je considère comme déjà militant. Aujourd'hui, donc, et parce que moi, j'ai envie d'éradiquer ce fameux syndrome de l'imposteur qui m'a niqué littéralement toute ma vie, j'ai décidé de pratiquer la philosophie inverse et de pratiquer la yes life. J'en reviens pas que j'ai un truc pareil. Waouh, je me dégoûte. Donc, maintenant, et même quand je suis morte de trouille, je me donne pour objectif de dire non à aucune opportunité et de dire non à aucune des personnes qui veut bien me laisser la parole, que ce soit ma mère, mes potes, Macron, peu importe. J'ai envie de faire valoir mon avis, parce que j'ai le droit déjà en tant qu'être humain, en fait, c'est déjà pas mal. Donc moi, j'ai envie et besoin de prendre la place qui m'est due, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, par exemple. C'est pour ça que j'ai aussi décidé récemment de changer de vie.
Là, t'as 2 doigts de dire que tu as ouvert un nouveau food truck à Montreuil en...
Je sais pas si on a bien fait de faire ces petites interventions. C'est pas toi, hein, c'est nous. Échanger de vie, en fait, pour tendre davantage vers mes rêves et prendre la place que je souhaitais occuper dans l'univers. Et ça passe par des changements qui, pour beaucoup de gens, peuvent sembler insignifiants, voire même quasiment inexistants, mais qui, en fait, à notre échelle, sont des signes de reconnexion avec nous-mêmes. Camille a applaudi, s'il te plaît. Merci. Donc ce mois-ci, pour vous donner un exemple, ce mois-ci, moi, je quitte mon travail. Et merci. Je quitte mon travail, je me suis mis à donner des cours tous les mardis soirs d'écriture, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai accepté de faire une conférence ici, voilà. J'ai passé un casting et tout, enfin, j'ai fait plein de trucs que j'aurais jamais fait, il y a quelques années, parce que j'étais justement absolument tétanisée d'oser faire ces choses-là. Et aujourd'hui, donc, donner mon avis, c'est mon métier, c'est l'objet de mon podcast, c'est l'objet de mon roman. Et oui, puisque j'ai écrit un roman aussi, donc voilà. Les éditeurs, n'hésitez pas à me contacter. Et c'est en partie parce qu'aujourd'hui, mon avis suffit à mon contentement. Ça ne veut pas dire que je me branle de l'avis des autres, ça veut simplement dire que mon avis sur mon travail prévaut sur celui des autres. Mon mec présent dans la salle, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est beau, me dit toujours « t'es l'incarnation de l'expression ». C'est quoi d'ailleurs que tu dis ? C'est vrai. Attends, c'est quoi ? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est vrai, parce que moi, je rigole tout le temps à mes propres vannes. Et j'arrête pas de dire que je suis au top. Mais en vrai, je trouve que je suis au top. Parce que j'ai trois métiers différents. J'élève un chat qui se prend pour un Doberman. J'ai survécu 29 ans. C'est franchement déjà vachement bien. J'ai un loyer exorbitant que j'arrive à payer presque toute seule. Je suis un cordon bleu. Enfin, ça peut paraître insignifiant, mais c'est déjà vachement. Et ensuite, si je me dis pas que je suis géniale, qui va le faire ? Personne. Et si je prends pas de la place, qui va me donner de la place ? Littéralement, personne. Là encore. Donc aujourd'hui, j'organise ma vie de telle sorte que non seulement j'essaye d'oser donner mon opinion en toutes circonstances, mais en plus je m'auto-félicite de l'avoir bien fait. Sauf que pour commencer à discuter des retombées potentielles du fait de donner son avis en tout lieu et en tout temps, je reprécise que moi je travaille sur le web. Donc sur Internet, le fait de donner son opinion, c'est s'exposer à de potentielles retombées. Surtout chez Mademoiselle, on publie nos articles sur notre site, mais on les diffuse aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Beaucoup de canaux sur lesquels les gens peuvent venir nous dire que ce qu'on fait, c'est pas très bien, voire c'est franchement de la merde. Et moi, en plus, je parle cinéma, c'est-à-dire un art qui divise. Et en plus, les gens, souvent, quand ils donnent leur avis, ils dévalorisent le vôtre pour faire valoir le leur. Donc, il convient, en fait, de... Moi, ça fait longtemps que j'essaye de m'en battre un petit peu les couilles. Et ça, c'est grâce notamment... Attention, je vais citer une personne qui est la personne que je cite 800 fois par semaine. C'est grâce à une femme qui s'appelle Julia Cameron. Julia Cameron, c'est une autrice, essayiste, musicienne, actrice, réalisatrice, poétesse, et j'en passe. Et en gros, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Libérez votre créativité ». Et c'est censé libérer la créativité qui sommeille en chacun de nous. C'est un programme en 12 semaines, bon bref, il y a plein de trucs à faire. Et dedans, elle explique notamment que quand on exprime une opinion ou quand on crée quelque chose, ce quelque chose-là ou cette opinion, à partir du moment où elle est sortie, ne nous appartient plus, mais appartient au domaine des idées, et que, en fait, du coup, ça ne sert à rien de mettre notre ego dans le rapport qu'ont les autres à notre propre travail. Mon conseil, est-ce que c'est là que je vous donne un conseil ? Oui, c'est ça. Mon conseil, c'est donc battez-vous en les couilles des haters, et plus précisément, parce que comme souvent les haters sont des vieux mecs, battez-vous en les couilles des vieux mecs. Par ailleurs, quand on prend de la place, quand on donne son avis publiquement, on peut s'exposer à des critiques qui remettent en question notre légitimité et qui viennent donc finalement titiller ce fameux syndrome de l'imposteur. Genre, pour qui elle se prend, elle n'est pas Angela Merkel, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Angela Merkel. En gros, on remet en question notre légitimité à donner notre avis, comme s'il fallait, pour exprimer une opinion, être absolument expert dans ce domaine. Donc, il y a quelques mois, par exemple, une auditrice de Laisse-moi kiffer a écrit à mon intention sur Apple Podcast « Arrêtez d'inviter Kalindi, elle parle tellement, c'est pénible pour tout le monde, et surtout pour les autres, et elle a trop confiance en elle. » Alors, c'est un commentaire que je trouve... C'est un commentaire que je trouve vraiment très intéressant, parce que déjà, qu'est-ce qui laissait supposer à cette jeune femme, pas mal intentionnée par ailleurs, j'en suis sûre, que j'ai trop confiance en moi ? Et puis, pourquoi considérait-elle cet apparent excès de confiance comme une menace pour mes comparses ? Et y a-t-il un juge suprême, un juge qui siège à la Cour suprême de la bienséance et qui dit « Bah toi, t'as trop confiance en toi, va-t'en ». Non. Alors déjà, remettons les points sur les i et les barres sur les t. Avoir confiance en soi, ça fait pas de mal. C'est même excellent pour la santé mentale. On se kiffe jamais assez. Et surtout, avec le peu d'armes dont on dispose quand on est une meuf, pour faire entendre sa voix, avoir confiance en soi, ou en tout cas prétendre qu'on a confiance en soi, c'est un pas en avant vers le fait de prendre la place qui nous est due. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous apprendre à avoir confiance en vous en 30 minutes, déjà parce que je galère moi-même à convoquer tout ce que j'ai toujours lu, vu ou entendu pour avoir l'énergie suffisante et me dire que ce que je suis me suffit, mais aussi parce que c'est un travail résolument intime qui nécessite, pourquoi pas, je ne sais pas, de la thérapie, libérer votre créativité ou ce que vous voulez, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais... Oui, les trolls, merci Baptiste. Oui, donc les trolls, ou simplement vos détracteurs, sont donc, après le syndrome de l'imposteur, le premier obstacle que vous allez rencontrer quand vous allez essayer d'oser donner votre opinion dans un podcast, par exemple. Mais comme je vous l'ai dit, il convient de ne pas placer votre ego dans ce que vous produisez. Les gens, lorsqu'ils s'attaquent à ce que vous produisez, ne s'attaquent pas à vous directement, mais à votre travail. Il faut quand même faire le distinguo pour ne pas devenir dingo. Waouh! Et il convient de ne pas tomber dans un autre écueil qui est de participer à la spirale infernale de la haine sur Internet. Et moi, ça, c'est un truc, j'ai du mal. Par exemple, la semaine dernière, j'ai été voir... c'est pas la semaine dernière, c'est il y a quelques jours. J'ai été voir Coupé. Coupé, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius. Pardon ? C'est super bien. Donc, j'ai été voir Coupé, qui est un remake d'un film japonais qui s'appelle Ne coupez pas. Et moi, j'ai adoré le film. J'ai trouvé super smart, super drôle. Tout le monde joue bien, à part la fille d'Hazanavicius. Et en vrai, donc, j'ai adoré. Et j'ai fait la connerie d'ouvrir Instagram, de scroller un petit peu. Et je suis tombée sur un YouTuber et podcasteur que je ne nommerai pas, mais que j'aime pas trop, et qui disait « Ouais, c'est nul à chier, ça n'a aucun intérêt. » Et donc, je lui ai répondu, je vais pas vous dire exactement ce que j'ai répondu, mais en gros, arrête de te prendre pour Dieu, quoi. Et c'était pas très malin de faire ça. J'étais pas hyper fière de moi, parce qu'en vrai, ce gars, il avait rien fait de plus que... Ouais, pas bien qu'elle me dit. Mais en vrai, ce gars, il avait fait ce que moi, je fais tout le temps dans mon podcast, c'est-à-dire me servir de mon libre arbitre pour juger d'une œuvre d'après mes appréciations personnelles. Et en fait, il convient aussi de se dire que si vous donnez votre avis, eh bien, les autres ont le droit de faire de même. Ça semble naturel, mais pour moi, c'est encore une épreuve. Donc résultat, moi je me suis auto-foutu la honte et j'ai perdu une énergie mais considérable avec cette haine que j'aurais pu injecter évidemment dans quelque chose de positif. Donc tout le monde a le droit de donner son avis, a le droit de donner son opinion, sauf évidemment si c'est raciste, misogyne, homophobe, etc. Je rappelle que le racisme, l'homophobie, etc. ne sont pas des opinions, hein. Bravo. Mais des délits punis par la loi. Alors pas assez punis peut-être, mais normalement oui. Et ici, on a envie d'être des gens bien et de pas finir comme Steven, c'est-à-dire CRS. Donc, donner son avis et prendre la place qui nous est due dans la société, ça doit être une ligne directive, un acte militant ou simplement une chose qu'on doit, comme une caresse, se prodiguer à nous-mêmes. Mais ça doit jamais être au détriment des autres. Le mieux pour créer avec l'esprit léger, c'est encore de profiter de l'intelligence collective et puis de demander conseil, de ne pas avoir honte, etc. Et, alors, j'ai envie de citer une essayiste américaine, elle est aussi autrice, c'est une grande penseuse américaine que je suis depuis 17 ans maintenant, qui s'appelle Meredith Grey. et qui a un jour dit dans Grey's Anatomy, « Soyons extraordinaires ensemble, plutôt qu'ordinaires séparément. » Applaudissements pour Meredith Grey. Donc pour résumer, il faut vous rappeler chaque jour que Dieu fait que personne ne vous fera de place gratos. Surtout pas si vous êtes une femme, surtout pas si vous êtes une femme racisée, surtout pas si vous êtes une jeune femme racisée. C'est donc à vous de conquérir l'espace en donnant votre opinion, en osant créer, en fabriquant vous-même. Et pour ça, il s'agit de gagner confiance en soi via le canal que vous préférez, etc. etc. On a tout vu ensemble, je crois qu'on manque un peu de temps. Donc bref, ces conseils sont très simples, utilisables en toutes circonstances. J'ai envie, enfin, pour finir cette conférence, de faire une petite mise en situation. J'adore le théâtre immersif, ce qui est vraiment très faux. Et j'ai envie de choisir au hasard une personne qui va monter sur scène, me donner son avis sur cette masterclass. Ah non, c'est moi qui choisis, désolée. Ah, désolée. Je vais choisir cette jeune femme au premier rang. Mademoiselle, est-ce que vous voulez monter sur scène ? Eh ben, montez quand même, le thème c'est oser. Hop !
On applaudit. Essayez bien vous. Fort cette femme qu'on a choisie complètement au hasard, que personne ne connaît.
Je m'assois ?
Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vous appelez, Alix Martineau ?
Je m'appelle Alix Martineau.
Merci Alix Martineau. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ?
Je lui dis là.
Ouais.
Ok. Bah, j'ai trouvé que c'était.
Merci beaucoup, Alix Martino. Ça me fait penser à une citation de Bergman. Vous pouvez descendre. Merci. Voilà. Alors, même Kian Kojandi écrit des meilleurs sketchs. Donc là, on va pouvoir finalement passer aux questions puisque cette mise en pratique est terminée. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que des gens ont des questions ? Attends, c'est après les applaudissements. Oui. Attends, il faut. Attends, je te donne un micro. Ah, il y a un micro là. Ah, faut vous déplacer et tout. Chaud.
Déjà, bonjour et merci pour la masterclass. C'était super intéressant. Il y a une notion qui est venue plusieurs fois, c'était le fait de prendre de la place. Je voulais savoir, est-ce que, selon toi, il y a de la place pour tout le monde ? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on... Enfin, comment est-ce que ça fonctionne quand tout le monde prend la place ?
Waouh ! Je m'attendais pas à ça, putain de merde. J'ai pas tout compris. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Il est censé y avoir de la place pour tout le monde. La réalité vient frapper à la porte du monde et te dire qu'en fait, non. Mais en réalité, c'est ce que, en tout cas, moi, j'espère. J'espère que c'est ce qui va pouvoir se produire, que tout le monde, ait de l'espace pour donner son avis. Et c'est quoi la deuxième question que tu me posais ? J'ai pas compris. Et surtout, comment on fait ? Bah, je croyais avoir essayé de répondre un petit peu dans cette masterclass. Mais... bah écoute, c'est ce que je te disais, en essayant de tout convoquer pour avoir suffisamment confiance en toi pour t'imposer dans le monde, même si celui-ci te laisse pas naturellement de la place. C'est pour ça que je te disais, en fait, c'est vraiment à toi de le faire, parce que vraiment, plot twist, personne ne le fera à ta place. Et donc, c'est de convoquer tout ce que toi tu peux, toutes tes ressources, pour essayer de prendre cette place qui normalement t'est due, en tant qu'être humain en fait qui peuple cette planète. Est-ce que d'autres questions ? Alors sinon, après, on peut aller boire des bières. Oui, tu peux venir si tu veux. Oui.
Comment être à l'aise sur ça ?
Ah, bah, si je le savais, j'aurais fait mieux aujourd'hui. C'est un peu compliqué de répondre comme ça parce que, en vrai, c'est moi-même, je suis pas à l'aise. Je pense que c'est très compliqué pour tout le monde de monter sur une scène et de donner son avis ou de se produire, peu importe la manière. C'est toujours la même chose. C'est le levier de la confiance en soi. C'est le fait de... Moi, je pense que vraiment, être à l'aise sur scène, ça s'apprend. Ça s'apprend comme tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si tu fais partie des gens qui sont timides, hyper introvertis, etc., ça peut qu'être à force de thérapie, etc., que peut-être tu te sentiras mieux, t'oseras monter sur scène, prendre la place qui t'est due. Tu veux m'aider, Mathis, ou pas ?
Peut-être pas t'écouter au dernier moment, puisqu'il y a littéralement, je sais pas, 10 minutes avant la conférence, tu hurlais, mais
oui,
empêchez-moi
voilà.
de monter.
Mais en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant.
Il faut deux personnes autour qui te rappellent pourquoi tu le fais aussi, quoi.
Mais oui, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que vraiment, enfin, moi, je connais personne qui est hyper à l'aise sur scène naturellement, qui vient sur scène, qui prend un micro et qui déblatère. J'ai l'impression que c'est un exercice périlleux et difficile un peu pour tout le monde, sauf qu'il y a des gens qui apprennent à le faire. Et c'est un métier, en fait, aussi, que ce soit conférencier, comédien, stand-upper, etc. Ça s'apprend. Donc, voilà. Et Florence, tu avais une question aussi. Est-ce que tu veux venir la poser à ce micro ?
Bonjour.
Oui, bonjour.
La question n'est pas pour toi, même si c'était brillant et vraiment génial. J'ai adoré. Une question pour toutes les filles qui sont ici. Donc, si je reprends et que je condense ton conseil à travers cette conférence, c'est... Il faut s'en battre les couilles. Mmh. Pardonne-moi mon langage de Chartier.
Elle s'appelle Florence Chartier.
Brillant. Et du coup, je suis très curieuse de savoir, parmi les filles ici, désolé les mecs, mais on n'attend pas de réponse de votre part, combien de filles ici sont prêtes à s'en battre les couilles après cette conférence ?
Super. Vous auriez pu être plus enthousiaste. Écoutez, encore une question, oui, tu peux... C'est pas facile, l'impro, c'est vraiment pas mon fort.
Bonjour, moi j'étais au fond Bonjour. De la salle, pas très loin de Cédric, et donc du coup, pour une illustration un peu des propos, j'aimerais que tu nous donnes ton avis sur sa tenue.
Bien sûr, Cédric, levez-vous. Alors Cédric Bégoc, qui fait un truc chez Acast, je sais toujours pas quel est son poste. Ah, directeur, voilà. reste debout parce que je vois pas. Moi, j'ai pas envie de critiquer Cédric parce que j'ai été trop critiquée pour avoir critiqué Cédric. Et j'ai envie de dire que Cédric est la démonstration parfaite de ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Cédric ose tout. Et c'est le principal. Bravo, Cédric. Merci beaucoup. Ah oui, je rappelle que eh bien, Cédric sera avec Alix Martineau, que vous avez vu sur scène pour un moment brillant qui n'a gêné personne, avec Camille Laurent, Louise Petrouchka, Mathis Nantois à la régie. Et d'autres personnes ce soir dans Laisse-moi kiffer à 20h. Donc n'hésitez pas à venir. Est-ce qu'on a fini avec les questions ou pas? Je crois qu'on est un peu à la bourre. C'est bon? On coupe? Ok, super. Merci beaucoup.